Ne vous êtes-vous jamais demandé comment voyaient d'autres espèces ? Vous connaissez tous la réplique « T'as de beaux yeux, tu sais » que Jean Gabin chuchotait à l'oreille de Michel Morgan. Oui, mais pourquoi faire ces yeux, ces beaux yeux de Michel Morgan ? Par exemple, pour contempler un beau paysage. Quoi de plus simple et de plus apaisant ? J'y discerne des prés verts vifs, des forêts plus sombres, un arrière-plan qui tire vers les gris bleutés et un ciel d'azur. Ma description est banale, mais le paysage est vraiment beau. Mais le petit lézard devant moi est allé sur une pierre, ou le jet qui est posé sur une branche et qui regarde dans la même direction que moi. Voit-il la même chose ? En d'autres termes, tous les animaux capables de voir sont-ils égaux ? Évidemment non, on sait très bien que notre chat voit bien la nuit, qu'un hibou voit également très bien la nuit, qu'une taupe a la réputation de ne rien voir du tout. Regardons les vertébrés. Dans la nature, il y a ceux qui voient les couleurs et ceux qui ne les voient pas. Il y en a même qui voient plus de couleurs que nous. Il y a aussi ceux qui voient la nuit. Mais on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Il y a un compromis à faire. Bien voir les couleurs ou bien voir la nuit, il faut choisir. En effet, chez les vertébrés, la rétine a tendance à se spécialiser. Soit avec des cellules adaptées à la photosensibilité, ces cellules sont des bâtonnets, dont le nombre permettra de voir dans l'obscurité, soit avec des cellules autorisant la vision des couleurs, et ces cellules sont appelées des cônes. Et comme la rétine n'est pas extensible, elle n'est pas immense, elle n'est pas infinie, il faut choisir des bâtonnets ou des cônes. Voir semble évident. Mais comment ça marche ? La sensibilité à la lumière se réalise grâce à une réaction chimique impliquant des photopigments, qui sont des pigments sensibles à certaines longueurs d'onde. Lorsqu'un rayon lumineux réfléchit par un objet vert, on va parler d'une pomme par exemple, touche le photopigment sensible au vert, ce photopigment se modifie. Et cela va enclencher une cascade de processus aboutissant à un signal nerveux, et notre cerveau nous dit alors « cette pomme est verte ». Les vertébrés présentent généralement 5 photopigments. Sans surprise, 4 sont exprimés dans les cônes, donc propices à la vision des couleurs, et un seul dans les bâtonnets, qui sont purement photosensibles. Sur cette base, quels sont les spécialistes de la pénombre ? Qui a besoin de voir le mieux possible dans le noir ? Les animaux nocturnes, bien sûr, ou ceux qui vivent dans un environnement où il y a peu de lumière. Dans la rétine de ces animaux, les bâtonnets dominent largement au détriment des cônes, et tant pis pour la vision des couleurs. On va avoir là des animaux nocturnes, qu'on va trouver chez les félins, les rapaces, les rongeurs, on peut penser aux gerbilles, on peut penser aux lairaux, et la chouette-hulotte, par exemple, pour prendre un rapace nocturne, aurait 56 000 bâtonnets par millimètre carré de rétine. Les habitants des grands fonds marins, où seuls quelques flashs de bioluminescence sont visibles, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont émettre leur propre lumière sous forme de petits flashs lumineux, sont de vrais champions, ces animaux marins. Et ça, c'est à tel point que le gène qui code pour le photopigment des bâtonnets est multiplié, il est dupliqué. Il y en a 5 chez une espèce de poisson, il y en a même certaines espèces qui en ont 18 copies, et même 38 copies chez la Directe argentée, qui est un petit poisson rond et plat avec des yeux immenses. On peut même se demander pourquoi certaines espèces ont évolué vers des systèmes de vision aussi sensibles quand il n'y a rien à voir. D'ailleurs, c'est pourquoi d'autres espèces ont pris des chemins évolutifs un peu différents, même plus radicaux, et que de nombreux organismes ont carrément perdu les yeux. Dans les grottes, par exemple, ce sont des centaines d'espèces différentes et non apparentées entre elles, qui sont totalement aveugles. Cela concerne des poissons, comme le poisson-chat aveugle Satan Eurystomus, des dizaines d'espèces de petits crustacés cavernicoles, une écrevisse et l'araignée loup des cavernes, un nom qui fait frissonner. Et les mammifères là-dedans ? À leur origine, les mammifères sont des animaux nocturnes et petits. Cela signifie que leur rétine a beaucoup de cellules en bâtonnets, qui permettent de voir dans l'obscurité, et peu de cellules en cônes, capables de détecter les couleurs. De par cette origine, La plupart des mammifères sont dichromatiques. Ils ne voient que deux canaux de couleur et leurs cônes ne sont sensibles qu'aux longueurs d'onde du bleu et du vert. Petite anecdote, si on pense à la corrida et au taureau, la muleta rouge qu'agite le toréador sous le nez du taureau, et on dit « le rouge excite les taureaux ». Mais le taureau, la muleta, il ne la voit pas rouge, il la voit bleu-vert. Donc le rouge n'excite pas les taureaux, c'est simplement le mouvement de la muleta qui va exciter le taureau et qui va foncer sur le toréador. Ceci dit, je ne suis pas un fan de la corrida. Derrière ça, ça veut dire que notre taureau et cette majorité de mammifères, que ça soit des chats, des chiens, des chevaux, etc., sont naturellement daltoniens. Certains mammifères, comme les cétacés, sont même monochromatiques, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas du tout les couleurs, ils vivent dans un univers en noir et blanc, mais après tout, quand on vit dans l'océan, on sait très bien que l'eau va filtrer les couleurs, car on va perdre le rouge, puis on va perdre progressivement d'autres longueurs d'onde. C'est pas si grave que ça de discerner qu'un paysage en noir et blanc. Donc nos amis les cétacés sont des animaux qui voient en noir et blanc, comme les anciennes télévisions finalement. Quant à nous autres humains, où en sommes-nous ? Nous revenons de loin. Avec nos très lointains ancêtres qui se contentaient d'un peu de bleu et de vert, on était mal parti. Mais voilà, nos plus proches ancêtres primates, de quelques dizaines de millions d'années quand même, se nourrissaient de fruits. Alors imaginez que vous êtes dans un arbre, il faut que vous détectiez des fruits pour ne pas vous les faire chipper trop vite par le voisin, et si vous ne voyez que du bleu et du vert, au milieu du feuillage, c'est quand même assez difficile, et donc certains primates ont développé un troisième photopigment calé sur le rouge et ils sont passés au trichromatisme. Et bien sûr, ceux-là ont été avantagés. Et le fameux RVB rouge, vert, bleu de la roue chromatique de nos ordinateurs, de nos téléviseurs, vient de là. Donc serions-nous des champions de la couleur ? Quitte à déboulonner nos écrans à je ne sais combien de millions de couleurs en RVB, il faut avouer que nous ne sommes pas les mieux équipés avec nos trois canaux chromatiques. Au sein des vertébrés, les poissons, les lézards ou les oiseaux sont tétrachromatiques et ils voient donc plus de couleurs que nous et beaucoup, beaucoup plus que nos ancêtres. Cela signifie au passage que la condition la plus ancestrale chez les vertébrés était de voir un monde riche en couleurs. Qu'ensuite nos ancêtres mammifères nocturnes sont passés à une vision pauvre en couleurs, le dichromatisme, et que le trichromatisme des primates, et aussi des marsupiaux d'ailleurs, est en réalité la réacquisition d'un pigment perdu. Cela signifie aussi que nos amis le lézard et le jais, qui regardent dans la même direction que moi, qui regardent le même paysage, voient finalement un paysage avec bien plus de couleurs et bien plus chatoyant que celui que je contemple. Dans ce contexte, qui seraient les champions de la couleur ? À nos yeux, les oiseaux diurnes sont parés de belles couleurs. Pensez à un chardonneret, un roitelet ou à une mésange. Eh bien, dites-vous que, vu par un congénère, ils sont encore plus beaux. Mais que dire des goupilles, ces petits poissons dont les mâles sont vivement colorés ? Les goupilles possèdent 9 photopigments aux sensibilités spectrales distinctes. Un qui absorbe dans les ultraviolets, 2 dans les bleus, 2 dans les verts et 4 dans les rouges. Si les mâles goupilles ont des couleurs variées, c'est que les femelles n'y sont pas insensibles, surtout lorsqu'ils entament une parade nuptiale en exhibant une belle palette de couleurs. Chez les animaux, on trouve aussi des champions de la détection des reliefs. C'est un peu comme aux Jeux olympiques, il y a des champions dans différentes disciplines. Le mode de vie de certaines espèces repose sur une bonne vision du relief. Pour cela, rien de tel qu'une vision en stéréo, binoculaire. Et pour une vision en stéréo, il faut que les deux yeux voient la même chose sous un angle un poil différent. Autrement dit, il faut éviter d'avoir les yeux sur les côtés de la tête. Voir les reliefs nous semble couler de source, puisqu'avec les autres primates, nous possédons des yeux sur l'avant de la tête. Mais petite expérience, fermez un œil et essayez d'enfiler un fil dans le chat d'une aiguille. Vous verrez que ça n'est pas si facile, simplement parce que vous aurez perdu la vision du relief. Les rapaces nocturnes ont un champ de recouvrement entre leurs deux yeux de 70%, vraiment idéal pour attraper des proies. Néanmoins, comme souvent, il y a une contrepartie. Avec des yeux en position frontale, vous voyez bien les reliefs, mais sur les côtés et derrière, c'est pas terrible, puisqu'il faut tourner la tête si on veut en garder ailleurs. Donc la question maintenant est comment agrandir son champ de vision sans tourner la tête. Sur le papier, la solution est simple, il faut faire en sorte que chaque œil regarde son propre panorama. Bon d'accord, on va perdre la stéréo, mais pour un herbivore qui doit surveiller des prédateurs, c'est plutôt pratique. Pensez à un lièvre, un chamois ou un zèbre, il peut regarder déjà pas mal d'endroits, et il a un grand champ de vision sans forcément tourner la tête. Certaines espèces ont même développé au fil de l'évolution des innovations encore plus impressionnantes. Les caméléons peuvent voir sur 300 degrés en roulant les yeux de manière indépendante. Une innovation assez géniale qui leur permet en prime de voir en relief si leurs yeux protubérants sont orientés dans la même direction, ce qui est indispensable pour attraper des insectes au vol avec la langue. On peut aussi se tordre le cou. Les chouettes sont des spécialistes de la rotation de la tête, selon un angle de 270 degrés. En comparaison, l'humain ne tourne la tête qu'à 90 ou 100 degrés. Passons aux rapaces diurnes, qui sont les champions de l'acuité. L'aigle, prédateur aérien, possède l'une des visions les plus précises qui soient. Il perçoit ses proies jusqu'à 1 km. À cette distance, il peut discerner une souris. C'est un peu comme si, du 10e étage d'un immeuble, vous pouviez distinguer une fourmi en train de marcher sur le trottoir. Pas mal, hein ? Chaque œil de l'aigle possède deux centres de mise au point qu'on appelle des fovéas. Ces fovéas permettent de voir avec acuité devant et sur les côtés, ce qui fait que son champ de vision est de 270 degrés et il ne perd pas la stéréo, il voit les reliefs. Enfin, comme aux Jeux Olympiques, il y a ceux qui ne seront jamais champions, qui auront juste participé. Il y a ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il se trouve que ce sont des mangeurs d'insectes, comme le hérisson ou le tamanoir, réputés pour leur mauvaise vue. Et il y a ceux qui ne voient pas grand-chose à l'image des taupes. Bon, évidemment, quand on creuse une galerie sous terre, on n'a pas forcément besoin de voir plus loin que le bout de son nez. Et quand on sort uniquement la nuit, c'est pareil, elles n'ont pas tellement besoin de voir ces pauvres taupes, mais on se met à leur place et elles n'ont même pas le loisir de porter des lunettes. Alors à propos de lunettes, comme le disait Pangloss, les nez sont faits pour porter des lunettes. Et j'ajoute, les yeux sont faits pour voir. D'accord. Il ne faudrait pas néanmoins y discerner une finalité intentionnelle. C'est-à-dire d'imaginer un objectif à atteindre prédéfini. J'ai besoin de voir, je fabrique des yeux. C'est simplement parce que des innovations évolutives qui permettaient à des animaux de voir ont été sélectionnées que les yeux existent. Ces innovations s'accompagnaient d'un avantage sélectif, une meilleure performance pour la survie, qui a fait que les animaux ont conservé les yeux. D'ailleurs, dans les grottes où il n'y a plus de lumière à capter, il n'y a plus d'yeux. Maintenant, vous pouvez circuler, il n'y a plus rien à voir. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charles Trou.